Bonus.
Trax.
Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors aujourd'hui, on va parler d'une base stellaire, non pas de la base Deep Space 57, mais de la base 80. Alors j'ai déjà oublié comment on dit ça, 80 en anglais, mais c'est pas
Star
grave.
Star Base 80.
Voilà, j'étais sûr que quelqu'un allait le dire à ma place. Engage.
I want to stay charmingly insubordinate.
But they've shown remarkable composure. Ah! Everyone's obeying orders and working in lockstep.
Nobody pull their disruptors.
There's no chaos. Hijinks. Or interpersonal conflict.
Are you sure you broke up?
Yes! This might be one of the most mature and capable crews in Starfleet.
Let's do this!
Yes, totally, but you are sitting on it backwards.
Damn it!
Working.
Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Je suis avec le capitaine Manu. Salut Manu, comment ça va?
Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. Je suis sorti de Covid, a priori. Enfin,
ah, t'as le Covid?
Des symptômes, en tout cas. Bah, je pense. L'accumulation de symptômes était plutôt matchante. Donc, il y a des chances que je l'ai eu.
T'es sûr que c'est pas une espèce d'entité non organique et qui aurait pris possession de toi? T'as pas essayé de lécher les murs, quoi?
Peut-être, mais j'avais... Non, mais j'avais... Puis j'ai pu utiliser mon comme badge, donc...
Ah, ça va alors.
Normalement, je suis à peu près safe là-dessus.
Et on a aussi notre Romulien relou, Romain Brami. Salut Romain.
Salut tout le monde, hello Guigui, hello Manu.
Comment ça va?
Bah pas mal, écoute, la neige a tombé hier pour nous tous, c'était beau à voir, et puis voilà quoi.
Pas chez moi, figurez-vous.
Ah, pas chez moi.
Angers, il a neigé, et à Nantes, juste du vent.
Pareil, ici, de la neige, mais qui a tenu, genre, même pas une heure. Avant de commencer à parler de l'épisode du jour, même si on a une petite semaine de retard, est-ce que, Manu, tu as vu le court-métrage Unification sur YouTube?
Je l'ai lancé, et puis j'ai navigué dedans sans vraiment le regarder, tu vois, juste pour voir ce que ça rendait, de quoi ça parlait à peu près, pour savoir si je le regarderais plus tard. Mais je l'ai pas vraiment regardé.
Ouais, donc c'est un court-métrage qui a été réalisé par une boîte qui s'appelle Otoy. J'ai jamais trop compris ce que c'était vraiment que cette boîte, mais en tout cas elle travaille avec les archives de Gene Roddenberry. Donc c'est un peu un site qui compile de la documentation sur les anciennes séries, les anciens films, etc. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est sur leur site, ils ont une espèce de... Ils recréent les passerelles de plusieurs navires. Et en fait, tu peux naviguer dans des reconstitutions un peu, des trucs comme ça. Et puis il y a des notes, des vieilles notes de production, des trucs comme ça. Et puis il y a ces courts-métrages. Alors il y a eu des trucs, j'ai pas trop bien compris ce que c'était il y a 2 ans, où on voyait par exemple une espèce de Spock. En fait, c'était un acteur qui avait un masque hyper réaliste de Leonard Nimoy, avec bien sûr quelques retouches numériques, j'imagine. Et une actrice qui ressemblait beaucoup à un personnage qu'on voit qui est secondaire dans l'épisode The Cage, mais par contre qui se passerait à l'époque du premier film, en fait, de The Motion Picture. Et en fait, c'est quelques secondes qu'on voit par-ci par-là, j'ai jamais trop compris ce que c'était. Et toi, Romain, ça te dit quelque chose, ça?
Non, pas tout à fait, mais sur Otoy, en fait, c'est une compagnie qui développe pas mal de technologies d'effets spéciaux, et en particulier de maquillage digital, en fait, ce qu'on appelle maquillage digital, qui est utilisé dans cet épisode. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas l'IA générative au sens où on l'entend, c'est plus c'est plus donc du maquillage numérique. C'est plus ce qui avait été utilisé sur, pour donner un exemple, c'est pas un très bon exemple parce que c'était pas très réussi, je trouvais, mais sur Star Wars Rogue One à l'époque, pour faire le méchant dans
Tarkin.
Tarkin, exactement.
Ça ressemble à ce qui a été fait sur Indiana Jones, le dernier, par exemple.
Ouais, alors Indiana Jones, c'est déjà un peu plus mixte parce que maintenant Lucasfilm s'est plutôt mis à utiliser des IA, mais en effet, c'est une technologie qui est intéressante, qui est pas parfaite à mes yeux, mais qui permet de faire des trucs comme ça qui sont quand même assez dingos et qui forcément te mettent quelques larmes à l'œil quand t'as connu tout ça de ton vivant, quoi.
Ouais, alors est-ce que on peut en parler sans spoiler, Manu, ou
non, allez-y, hein.
Ouais, c'est vrai.
Bon, après, de toute façon, spoiler, c'est compliqué, parce que t'es quasiment, on en parlait un peu avant l'émission, t'es quasiment sur du truc un peu lynchien, hein, c'est plein de symboles et de tout ça. Mais en gros, le pitch...
T'as des belles surprises, quand même.
T'as plein de surprises, mais en gros, le pitch, tu comprends que c'est Kirk qui est ramené à la vie pour dire au revoir à Spock au moment où Spock meurt, a priori, dans le Prime Universe, en fait.
Pour moi, c'est un peu nébuleux, parce que pour moi, c'est au moment de la mort de Kirk, effectivement, il y a une espèce de... Il a aspiré quelque part pour aller voir, effectivement, pour retrouver Spock au moment de sa mort, donc dans Star Trek Beyond, le dernier film. Donc une mort qui est hors champ, qu'on ne voyait pas à l'époque, parce que Leonard Nimoy était décédé. Si je ne me trompe pas, hein, c'était
fait,
avant que le film sorte.
Le voit pas,
Ce qui nous est dit dans le film, c'est qu'il est mort sur New Vulcan, paisiblement, a priori. Et on n'en savait pas beaucoup plus. Et là, donc, du coup, on voit Kirk tout jeune, tout juste sorti du Nexus, et peut-être que même ça se passe avant que Picard le retrouve, on sait pas en fait, c'est assez mystérieux.
C'est assez nébuleux, mais il y a quand même un montage au tout début de l'épisode qui inclut pas mal d'éléments, dont en effet le Nexus. Donc on voit Gary Mitchell, donc on sait pas très bien ce que vient faire Gary Mitchell là-dedans, mais on peut imaginer plein de choses.
Et en plus le plan il est super, parce que il est Gary Mitchell et on le voit de dos, de loin. Et il est face à une espèce de soleil, on dirait.
Ouais, ça c'est kubrickien pour le coup, c'est pas Lynchien,
ah, complètement.
C'est kubrickien. Ouais. D'ailleurs, il me semble que Otoy avait fait un film où il réconstituait l'intro de 2001 l'Odyssée de l'espace.
Ouais, c'est vrai.
Mais il y a aussi, donc ce que je voulais dire, c'est que dans ce montage ultra cut, tu vois des scènes de l'épisode de Picard où il parle du projet, je sais plus quoi, Picard Genesis 2 ou je sais pas quoi. Donc il y a quand même cette référence au clone de Kirk dont on parle, qu'on évoque presque d'un point de vue blague, dans Picard en fait. Donc il y a quand même cette notion de génétique, reconstitution génétique du personnage.
Alors non, dans Picard c'était pas un clone, c'était le corps de Kirk qui avait été ramené de Viridian 3. Et c'est vrai, t'as raison, c'est très très bref, mais on voit ce fameux personnage qui ressemble à la fille dans The Cage, cette membre d'équipage, et on voit aussi d'autres choses. On voit justement le court-métrage qu'ils avaient fait l'année dernière, où on voyait Spock rendre hommage à Kirk sur Viridian 3 avec, tu sais, la soucoupe de l'Enterprise D qui était récupérée justement pour aller dans le musée de Geordi. Donc en fait, vraiment, tout est lié, quoi. Et donc on a ça qui nous remet dans le contexte. Et effectivement, on commence par Kirk qui arrive dans une espèce de jardin assez somptueux, très bon, un peu baroque, un peu kitsch, hein, moi je trouve, mais c'est très joli. Enfin, ça, peu importe, ça marche bien. Et surtout, enfin, moi ce qui m'a scié, c'est de retrouver l'actrice qui s'appelle Robin Curtis, si je me trompe pas, qui jouait Saavik dans les films 3 et 4. Donc, même malgré le fait qu'elle ait pris 40 ans, on la reconnaît parfaitement bien. Et effectivement, on le disait en off, derrière elle, on voit un Vulcain un peu plus jeune, bon, âgé, mais plus jeune qu'elle, et on suppose, on devine qu'il s'agit du fils qu'elle a eu avec Spock dans les scènes coupées, parce qu'en fait, dans Star Trek 4, oui, il y a des scènes coupées où on suggère que Saavik est enceinte de Spock, le Spock adolescent, puisqu'ils ont fait le Ponfar dans Star Trek 3. Donc voilà, c'est assez... c'est, la scène est très jolie, en plus.
C'est une scène coupée ou si c'est dans le roman de la version...
J'ai pas lu la novelisation, mais je pense que c'est dans les deux. Et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment super... Alors, il y avait déjà retrouvé l'actrice. Franchement, j'ai trouvé, ça m'a fait plaisir. Et après, on retrouve le lieutenant Yor, cette espèce de voyageur temporel de la Kevin Timeline qu'on avait découvert dans Discovery, qui donne je crois que c'est un insigne ou un com badge à Kirk, et c'est ce qui le fait basculer dans la Kevin Timeline, en fait. Et là, on a vraiment une séquence où c'est Kirk qui est dans la Black Lodge de Twin Peaks, quasiment. Donc c'est assez joli, jusqu'à ce qu'il retrouve le vieux Spock mourant, et qui lui donne la main comme il lui donnait la main, il lui prenait la main comme dans The Motion Picture, quand il venait de rencontrer V'ger.
C'est une allusion directe à la scène de Motion Picture, quand Spock se réveille, les plans de caméra sont exactement les mêmes. Après, il y a plein d'autres, alors des trucs qui sont quasiment impossibles à capter, hein, même pour le plus gros des fans. Mais par exemple, dans cette réunion de personnes qui se sont mis en ordre de marche pour réincarner Kirk. Donc en effet, il y a Saavik, il y a le fils de Spock, mais il y a aussi un vieux monsieur avec un uniforme de Starfleet, un uniforme de cérémonie de Starfleet, génération Nemesis, quoi, on va dire Star Trek Nemesis, etc. Et qui est crédité comme Crusher, en fait, dans le générique de fin. Donc tu pourrais penser que, en fait, ce mec, c'est aussi Wesley Crusher. Donc ça serait vraiment une sorte d'association de plein de personnalités un peu mystiques de Star Trek. Donc en effet, Gary Mitchell, Wesley Crusher, d'autres certainement. Donc ce fameux le soldat dont tu parlais là, de qu'on voit dans Disco, qui se serait uni pour offrir en quelque sorte ce moment à Spock avant sa mort, quoi. C'est vraiment bourré d'allusions, quoi.
Et en plus de ça, le court métrage, quoi, qui fait à peu près 7-8 minutes, il est entièrement muet, ce qui renforce un peu vraiment, ouais, l'aspect émotionnel. Alors effectivement, qui est un peu gâché par peut-être des fois la technique, c'est très bien fait, mais des fois, bon, on sent que voilà, c'est toujours pas parfait. Et moi, ça me dérange toujours effectivement aussi d'utiliser l'image d'un acteur qui est décédé comme Leonard Nimoy, même si on sait que la famille était pour, puisque le court métrage est dédié à Leonard Nimoy, c'est pour lui rendre hommage, et la famille est dans la production de ce court métrage, quoi.
On est sur un produit quand même assez spécial parce qu'en effet, je ne sais pas si on l'a rappelé, mais c'est coproduit par William Shatner et par la famille de Leonard Nimoy et par les enfants de Gene Roddenberry. Donc il y a vraiment le trio magique qui est impliqué. À la production même, il y a plein de gens qui sont vraiment des donc tu as parlé de Robin Curtis, c'est ça, si je ne dis pas une bêtise,
ouais.
Mais il y a aussi Dave Blass qui est le directeur des décors sur Picard, si je ne dis pas de bêtises, qui participe. C'est Michael Giacchino qui fait, alors ça m'a fait halluciner parce que c'est quand même une méga star, c'est Michael Giacchino qui fait la musique du bordel. Je crois que le chef des effets spéciaux d'Otoy, c'est un ancien mec qui a aussi travaillé sur Star Trek et tout. Donc t'es vraiment sur un produit quand même un peu hybride entre de l'officiel et du non-officiel. Je me posais un peu la question en antenne de savoir comment Paramount t'autorise ce genre de truc, parce que tu te doutes que si Shatner est coproducteur...
Surtout qu'ils ont défoncé des fan-films.
Tout à fait. Tu te doutes que si Shatner est coproducteur du bordel, c'est uniquement pour toucher du pognon, donc ça veut dire qu'il y a bien du pognon en jeu. Donc c'est quand même... je trouve ça quand même assez dingue qu'un produit comme ça puisse exister. Mais moi, j'ai pris du plaisir, honnêtement. C'est tellement fou de voir un truc comme ça. C'était tellement inimaginable il y a encore 10 ans que c'est, en tout cas, c'est à voir. C'est pas à rater, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est un short trek vraiment sympathique. Short trek qui ne porte pas son nom. Mais je pense que oui, comme la famille Roddenberry est dans le coup, et que Eugène Roddenberry, donc le fils de Gene Roddenberry, il est de toutes les productions de ce qu'ils font actuellement. Je pense qu'il doit avoir une clause, enfin, il doit avoir un petit espace dans lequel il peut naviguer et créer genre de court-métrage, quoi. Parce que même les fan-films, la Paramount, elle avait mis le holà, mais elle a défini un cadre qui permet aux fans de créer des films en respect simplement certaines règles, dont une des règles qui est justement de ne pas engager des gens qui ont déjà travaillé sur Star Trek. Et là, du coup, pour le coup, c'est vrai que celui-ci enfreint complètement cette règle-là, parce qu'il y a quasiment que ça. Bref, regardez-le, faites-vous votre avis et dites-nous sur Blue Sky ou sur le Discord ce que vous en avez pensé, quoi. Est-ce que Manu, on t'a donné envie de le regarder du coup ?
Ouais, non, mais je me l'étais mis de côté pour plus tard de toute façon, hein, clairement. Vous m'avez pas spoilé, parce que quand je vous dis tout à l'heure, j'ai navigué de temps pour voir de quoi il en retournait. J'ai tout vu, globalement, j'ai juste pas vu l'ensemble se dérouler sous mes
D'accord.
yeux. Mais je suis pas... moi, j'ai pas d'intérêt pour les fan-films en général. Le statut hybride de celui-là, semi-canonique, je ne sais pas trop qu'en penser. Je vous avoue que ça fait un peu fan-service pour moi, mais je le materai pour la forme, quoi.
Ah bah c'est clair que on peut pas faire plus fan service que ça, je pense, hein.
D'ailleurs, le seul truc qui m'a énervé n'a rien à voir avec la production elle-même, c'est les commentaires par milliers. Et Dieu sait que je suis pas un gros défenseur de l'air Kurtzman, hein, mais le voilà enfin du vrai Star Trek, c'est tellement mieux que tout ce qui nous a été proposé depuis 15 ans et tout. Et là les gars, j'ai envie de leur dire, mais franchement, vous croyez que le futur Star Trek, ça sera uniquement des trucs avec Shatner et Nimoy refait en digital? Enfin, j'espère que ça sera pas ça, sinon c'est bien triste quand même, quoi. Donc voilà, ils ont quand même réussi à m'énerver, mais pas les gens qui le font, qui pour le coup ont l'air vraiment d'avoir les pieds sur terre, quoi.
Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui disent digital à la place de numérique, mais...
Ah oui, merci. C'est clair. Moi aussi, à chaque fois. Qu'est-ce que le doigt a à voir là-dedans? Je ne sais pas.
Parce que je pense que tu as une empreinte numérique plus sale que ton empreinte digitale. Hein.
Peut-être. On va parler de l'épisode de Lower Decks à présent. Qu'est-ce que vous en avez pensé, sans spoiler, Manu?
Bah écoute... le dernier podcast, j'étais déjà là pour me plaindre qu'il y avait patine. Là, il y a encore patine.
C'est vrai.
Fortement
c'est vrai.
Énervé. Cependant, j'ai trouvé l'épisode bien sympathique. On a à la base la Starbase 80, qui est une légende de Lower Decks depuis peut-être le début. Je ne sais plus à quelle saison ils commencent à en parler.
Je crois qu'ils en parlent dans la saison 2, mais on la voit dans la saison 3.
Du coup, ouais, c'est un running gag qui me fait rire. Et surtout, contrairement à peut-être les... Ouais, au moins l'épisode précédent, je pense, ou les deux épisodes précédents. On a plus, plutôt que d'avoir deux duos des quatre personnages originaux qu'on suit dans la série, on a vraiment une implication d'un peu plus de l'équipage, malgré Tin, qui est assez intéressante. Et toutes les légendes autour de la Starbase E.T. et ce qu'on en voit et ce que les personnages en viennent à faire, j'ai trouvé ça assez drôle. Donc dans l'ensemble, voilà, je l'ai trouvé sympathique.
Ok, et toi, Romain ?
Ouais, moi aussi, je l'ai trouvé très sympa cet épisode. C'était marrant de voir cette Starbase E.T. dont il nous parle depuis longtemps. J'ai trouvé que les personnages étaient particulièrement savoureux en plus. Bon, une histoire A, une histoire B, bon, qui se confondent quasiment complètement. Bien réussi, un bon épisode de Lower Decks, rien à dire. De toute façon, cette saison est réussie. Vraiment, je trouve qu'ils ont atteint une vitesse de croisière qui est à la fois excellente et en même temps pas trop répétitive, beaucoup moins répétitive que les saisons d'avant. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien.
Là, tu vois, moi, je suis déçu qu'ils soient trop sur un rythme de croisière, justement, pour utiliser tes termes. Je trouve que la série se repose sur ses lauriers depuis deux saisons. Elle a une bonne qualité, mais elle me surprend plus comme avant. Elle me fait... Il y a moins de gros hauts qu'avant, je trouve. Et j'espère que ça sera pas le cas plus tard, mais... Enfin, que la fin ira très loin. Mais je sais pas, il y a des trucs qui m'emmerdent un peu. Le fait de trouver ça juste sympathique, ça m'emmerde, en fait. Après, je précise, petit astérisque, c'est largement mieux que les live-action actuels, dans la qualité constante, je veux dire. Enfin, on est au-dessus, quoi.
C'est clair que là, en termes de... Il y a moins de haut et de bas, c'est effectivement toujours plus ou moins constant. Alors, moi, je suis assez d'accord avec vous deux, hein, sauf peut-être sur le côté répétitif. Moi, je trouve une petite répétition, surtout dans les deux épisodes, l'épisode 5 et l'épisode 6, dont on parlera dans le podcast suivant. Mais ça, j'y reviendrai. Mais en tout cas, c'est vrai que celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup reproché aux épisodes précédents d'avoir un plot A complètement décorrélé du plot B. Et là, pour le coup, ici, c'est pas du tout le cas. Les deux fusionnent bien ensemble. Enfin, ils fonctionnent bien en symbiose, ils sont voilà, l'un alimente l'autre quelque part, donc ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite dans la zone spoiler.
Red alert.
Marineur, le sol va pas se dérober sous vos pieds.
La dernière fois, je suis tombé dans un fossé ouvert. Vous vous demandez comment il peut y avoir un fossé ouvert sur une base stellaire? Eh bien ouais, tout est possible en enfer. Salut l'équipage du Cerritos. Bienvenue sur la base stellaire 80, Cassianox, liaison diplomatique. On est tellement soulagés que Starfleet ait enfin envoyé quelqu'un pour réparer notre spectromètre de flux.
J'ai bien peur qu'il y ait un petit malentendu. Le Cerritos a dû venir ici à cause d'un problème de navigation. On a besoin d'un nouveau processeur si vous en avez un.
Oh, je vois. Bon, je suis sûre qu'on a un ou deux processeurs de navigation en stock si ça ne vous gêne pas d'avoir un ancien modèle.
Eh bien, le Cerritos n'est pas de toute première jeunesse, donc un vieux modèle devrait faire l'affaire.
Je pense que mon ingénieur en chef peut vous dépanner. Il est au niveau 15.
Mariner, tu pourrais aller voir si tu peux aider à réparer la station pendant qu'on va chercher le processeur.
Ou je pourrais retourner plutôt bien tranquillement sur le Cerritos sans rien réparer du tout.
C'est un ordre.
On dirait que vous êtes avec moi. Maman, s'il te plaît, fais-moi vidanger les bacs à déchets de l'holodeck. N'importe quelle tâche qui me ramène sur le Cerritos, je t'en prie.
Oh, ça craint, ces circuits sont tout vieux et bizarres. Je rêvais de bosser sur quelque chose de nouveau.
Est-ce que tu rêvais d'être maudit ?
Warning. Cet épisode qui s'appelle La Base 80 a été écrit par May Darmon et réalisé par Bob Suarez. Donc un épisode, comme on l'a dit, très sympathique, où on voit Ransom qui utilise trop de gel désinfectant, entre guillemets, le gel qu'on voit dans Enterprise, pour faire la téléportation sur la base 80, tandis que Mariner devient paranoïaque à propos de malédiction qu'elle s'imagine, parce qu'en fait, ils ont un problème moteur, on va dire, et le seul endroit où ils sont capables de pouvoir aller pour faire réparer le Cerritos, eh ben, c'est la base 80, la fameuse base 80 dans laquelle Mariner avait été envoyé en fin de saison 3 pour la punir, grosso modo, parce qu'on pensait qu'elle avait fait une connerie qu'elle n'avait pas faite. Et du coup, elle s'était barrée, elle avait quitté Starfleet à cette issue-là, parce que la base 80, c'était vraiment trop la zone, quoi. Et on va enfin donc découvrir en quoi cette base 80, c'est la zone.
Là, j'ai bien aimé l'intro. Bah, de toute façon, le hurlement de Mariner à la fin est incroyable. Mais en plus, ça a le mérite de te replacer s'ils sont en vitesse subluminique, les choses sont loin. Je crois que c'est quoi, c'est 400 ans la base la plus proche.
Ouais, c'est ça, elle m'a fait rire cette scène. Elle lui fait, ouais, sinon il y a Deep Space Six qui est à 420 ans. Et là, t'as Mariner qui fait, faisons ça. J'ai trouvé ça assez fun pour le coup.
Et ouais, du coup, c'est vraiment... Enfin là, tu ressens vraiment l'espace quand ce qui se passe et pourquoi la Starbase 80, bah, du coup, elle est un peu potentiellement excentrée par rapport au reste. Mais ouais, je trouvais que l'intro était efficace en tout cas.
Et donc, ouais, comme je disais, Ransom, il réutilise le gel qu'on voit dans Enterprise, mais je me demande si c'est pas vraiment le même gel.
On a même la chambre de décontamination.
Oui,
de
ça ressemble, mais du coup, c'est pas vraiment le même gel, parce que le gel, si je me souviens bien, c'était pour se décontaminer de certaines choses quand il revenait de mission sur Enterprise. Et alors que là, c'est un gel qui est utilisé pour, on va dire, stabiliser la téléportation, quoi. Alors qu'en fait, ils auraient très bien pu y aller en navette. Pourquoi ils ont pas fait ça, je ne sais pas.
Du coup, le Look at me, I'm T-Paul.
C'est vrai.
C'est à la fois beaucoup trop. Enfin, tu vois, la référence est beaucoup trop directe, mais quand même, ça m'a bien fait.
Ouais, c'est vrai, j'avoue, moi, c'est pareil.
Mais c'est vachement moins gênant à voir en animé avec des personnages qui rigolent que dans Enterprise.
Ah, ça, c'est clair, parce que moi, c'est vraiment une scène dès le pilote de Enterprise. Je crois que c'est dans le pilote ou dans l'épisode suivant.
Mais oui, avec T-Paul, quelle était qui pointe en dessous de son petit débardeur là.
C'était gênant. Ça dure longtemps en plus. Vraiment. Et puis en plus, ils le refont plusieurs fois dans la série, quoi. Ils s'arrêtent pas là, quoi.
Bah, ça permet de voir comment c'était avant qu'ils soient décontaminés par les télétransporteurs ou des trucs comme ça, quoi. Mais.
Ce que j'ai beaucoup aimé sur cet épisode de la base 80, c'est qu'en fait, la base est tellement éloignée, tellement reléguée, tellement ils s'en foutent, Starfleet, qu'en fait, elle n'a pas été mise à jour depuis... Enfin, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Il y a plein de... Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Cassianox qui accueille Mariner et ses compères. Et en fait, elle a un uniforme de l'équipage d'Enterprise, quoi, d'il y a 200 ans, en fait. Et il y a plein de vieux trucs dans les décors qui sont des trucs il y a 100 ans, de l'épisode 2 de l'époque de Kirk.
Il y a le fameux ascenseur, l'ascenseur et les communications internes de la série classique, qui c'est bien cool de les revoir d'ailleurs. Moi, j'aimais bien ces ascenseurs.
On la voit dans Strange World, techniquement, parce qu'ils ont ça.
Ouais, c'est vrai.
Mais il y a la réplique de « Trop cool, vos costumes vintage, vous les avez fait comment ?» on les a juste pris sur les cadavres des morts.
Elle est assez cool d'ailleurs, l'espèce de promenade, ce qu'on appelait la promenade dans Deep Space Nine, elle est assez canon. Et évidemment, le fan de rétro gaming que je suis est adoré voir une salle d'arcade dans Star Trek. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, donc c'était assez cool.
Je pense, ouais.
Ah, t'as vu, justement, il y a une borne d'arcade, c'est Space Invader, et en fait, c'est un jeu romulien, et du coup, en fait, ils doivent détruire des Enterprises. Je sais pas si t'as fait gaffe à ça, c'était super drôle.
Excellent.
C'est assez drôle. Et puis, il y a un jeu Ferengi, enfin, on va avoir plein, vraiment, les décors fourmis de petits décors, de petits détails sympas. Moi aussi, un truc qui m'a fait vraiment rire, c'est un moment, du coup, Ransom découvre des escaliers et trouve ça super, parce que du coup, pour faire de la cardio, c'est bien. Et c'est vrai que dans Star Trek, ouais, on imagine que parcourir des escaliers dans des cages d'escaliers, ça doit pas trop être un truc qui arrive très souvent. Et du coup, pour eux, ce soit exotique et que ça en soit une blague, j'ai trouvé que c'était vraiment super drôle, quoi.
Il y a un côté très 12 travaux d'Astérix dans l'épisode.
C'est vrai.
Et qui m'a rappelé surtout, parce que j'ai revu la série il y a pas longtemps, un épisode de Community. Dans la saison, je crois.
Dans la dernière saison, ouais, tout à fait.
Où ils doivent réparer des trucs et notamment.
Ah non, c'est dans la cinquième.
Parce qu'il
y a
cinquième,
X.
Ouais.
Bah, c'est dans la cinquième.
Et il y a. C'est peut-être l'épisode d'ailleurs où tu vois la différence entre Janitor et. Comment ça s'appelle l'autre ? Je sais plus. Où il y a la différence entre deux. Entre deux services qui sont censés faire la même chose globalement. Et t'as la même chose de chacun, ils s'envoient à faire des trucs parce que en fait, c'est ubuesque le parcours, quoi. Et là, il y a la même problématique qui est très réelle de Starfleet, ils mettent des plombes à répondre aux demandes parce que c'est loin des yeux, loin du cœur, et ça les impacte fortement parce que c'est pas le flagship, c'est pas la flag station. On en vient d'ailleurs à Freeman qui se fait cette remarque de en fait, je vais les aider parce que j'ai la même merde, en fait, à mon échelle, mais j'ai la même merde.
C'est sympa d'avoir cette histoire-là. Toi, Romain, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça, du coup ?
Alors, évidemment, que l'ingénieur soit l'ingénieur, on le voit venir depuis 45 ans. Moi, je l'ai compris dès la première scène, en fait, je crois. Mais pareil, enfin, c'est plein de petits détails, mais je trouve le fait qu'il soit un peu en surpoids, qu'il porte le même costume que Scotty et tout, tu vois, c'est plein de petits trucs que je trouve. Évidemment que c'est du fan service, mais je trouve ça sweet, en fait. Enfin, je trouve ça mignon, quoi.
Il a un costume d'Enterprise aussi.
Il a un costume d'Enterprise, mais il a le survêt que portait Scotty dans les films Star Trek, en fait.
Ah, j'ai pas fait gaffe à ça.
Il a l'espèce de truc avec les petits outils sur les côtés. C'est le même qu'il porte dans Relique de Next Generation également.
Ouais, oui, je vois, ouais,
c'est
d'accord.
Des détails. Tu comprends qu'à chaque fois, ils sont là pour réparer les trucs, machin, truc bidule. J'ai bien aimé aussi l'espèce de race... Ils ont fait un accord un peu mal ficelé qui fait qu'ils possèdent 80% du système solaire et en fait Starfleet a trop la flemme de renégocier, donc ils ont quasiment la possession de la station. Je sais pas, c'est plein de petits trucs qui m'ont fait marrer.
Ils ont l'air menaçants au début, mais finalement, ils sont sympas. Donc, ça a l'air d'aller. Et puis, d'ailleurs, oui, ils n'ont pas de synthétiseur, mais ils ont des gars qui vendent de la bouffe un peu partout, quoi.
Ouais, alors lui aussi, ce personnage avec ses saucisses, là, il m'a fait mourir de rire avant que les mecs se transforment en zombies et tout. Enfin, je sais pas. C'est très con, et j'ai conscience que c'est très con. Il y a quand même deux types d'épisodes de Lower Decks. Je me faisais la réflexion en voyant également l'épisode suivant. C'est finalement, t'as l'épisode où tout est fait pour être comique, si tu veux. Et t'as les épisodes où finalement, ils reprennent un scénario qui aurait presque pu être un scénario d'une vraie série, en tout cas d'une vraie série de l'époque Berman, pour en faire des éléments un peu plus comiques. Et je trouve que les deux épisodes des deux dernières semaines reprennent ce schéma-là. Et là, l'épisode Starbase 80, je pense pas que t'aurais pu vraiment faire un épisode... c'est trop gros, en fait, pour en faire un épisode normal, si tu veux. Du coup, tout est comique. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un truc que tu dois prendre quasiment comme un film du type... c'est quasiment du scary movie ou tu sais, les films des frères Zucker et tout ça, quoi. T'es dans du 100% comique et des fois c'est un peu lourd. Là, j'avoue que je me suis plutôt quand même bien marré sur la quasi-totalité de l'épisode, quoi.
Oui, il y a un truc que je trouve intéressant en plus dans cet épisode, c'est qu'une des motivations de Freeman, c'est que le fil rouge qui nous est lancé en début de saison avec l'univers alternatif, elle a vu que son alter ego avait été flingué par la base 80. Et elle veut pas que ça y arrive. Et c'est le seul personnage qui réagit comme ça, à part Boimler. Et le fait que ce soit Freeman qui réagisse comme ça, en dehors de Boimler, les autres, ils ont l'air assez sereins avec leur double alternatif. Je veux dire, que ce soit Tilin qui fait juste des blagues sur leur différence sémantique, enfin de mots, ou Rutherford, qu'on voit plus dans l'épisode d'après, à nous dire soit juste toi-même, en fait. Je trouve ça assez marrant que ce soit Freeman et Boimler qui soient sur cette... cette crainte vis-à-vis d'eux-mêmes et de leurs possibilités et de leurs échecs potentiels.
Et du coup, ouais, je me demande même si la base 80, on va pas la revoir dans le final, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, depuis le début de cette saison, on a un peu les répercussions de l'épisode du premier épisode, puisque là encore, dans cet épisode-là, Boimler a sa barbe qui continue de pousser, et il est encore là-dessus, quoi, à essayer de faire
des trucs...
Mais
c'est son fil rouge de la saison.
Ouais,
moi, ça m'a un peu saoulé dans l'épisode d'après, d'ailleurs.
C'est trop présent.
Le podcast d'après, du coup, ça m'a un peu saoulé. Mais l'évolution capillaire, j'en ai déjà parlé de la dernière fois, je crois, c'est un de mes trucs préférés de la saison.
C'est vrai qu'on l'a dit, mais moi, ça me gêne pas du tout, hein, pour le coup, mais c'est remarquable par rapport aux autres saisons. Tu ressens beaucoup moins l'aspect fil rouge dans cette saison. Et c'est vrai que la Starbase 80, on se doutait que ça viendrait, mais finalement, ça arrive assez tôt dans la saison, puisqu'on est à mi-saison, si je dis pas de bêtises. Ça amène même pas sur quelque chose. Finalement, il y a une histoire qui est réglée à la fin de l'épisode, quoi. Il y a cette histoire de contamination, machin. Donc, il y a rien à que je peux penser dans l'épisode qui peut amener à quelque chose de plus gros pour la suite, à moins que j'ai raté quelque chose.
Non.
Je sais pas, parce que ça peut être soit le fait qu'il les a aidés qui fait que peut-être ils leur reviendront en aide plus tard. Il peut y avoir un retour de la chauve-souris dont on n'a pas le fin mot à la fin de l'épisode, parce que ça finit sur un cliffhanger de on sait juste qu'il se tape avec une chauve-souris. C'est pas impossible qu'on ait des caméos de cet épisode plus tard qui reviennent comme ça, quoi.
Moi, c'est ce que je pense aussi, puisque c'est une étape de franchie pour Freeman et ça doit vouloir dire quelque chose pour le...
Parce qu'on sait pas où elle est, ouais. La chauve-souris géante.
Bah si, d'ailleurs, je dis qu'il n'y a pas de fil rouge, il y a quand même justement cette histoire de... Je pense
que
de la barbe de Boimler, il y a l'histoire des univers alternatifs. Mais c'est vrai que dans cet épisode qui est central et qui avait été pas mal teasé, pour le coup, c'est pas du tout évoqué. Même pas un peu, quoi.
Mais je pense que du coup, on reverra les personnages de la base 80 comme Cassian Ox, par exemple, dans le final.
Et qui va être la Starbase la plus importante de Starfleet, le truc...
À un moment donné, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant...
En fait, à un moment, je me suis dit qu'on a déjà eu des trucs comme ça, en fait. Ça peut être... Il y a un problème via la technologie trop moderne. Genre la mise en réseau de tous les vaisseaux de Starfleet qui a posé problème à un moment, des choses comme ça. Dans Discovery ou je sais plus. Ça peut être un truc de il n'y a que la Starbase 80 qui survit parce que
ils sont old school.
Obsolète, en fait.
Pas mal.
Ouais,
et il y a aussi
mal,
le
ouais.
fait que donc le personnage qui est habillé en uniforme d'Enterprise, elle est de la même race que Guinan. D'ailleurs, c'est clairement dit. Hein. Vraiment, elle ne se pose même plus
dit,
de question
ouais.
de ah, mais t'es Guinan.
Elle a 30 ans.
Et Guinan, qui a 30 ans. Et Guinan, si je me souviens bien, dans l'épisode Yesterday Enterprise, c'est la seule qui peut percevoir qu'il y a eu des distorsions dans le présent. Etc.
Bien
donc
vu,
ça,
bien vu.
Ça pourrait être un personnage important par la suite aussi.
Un asset vraiment pour démêler le nœud final, quoi. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, j'y avais pas pensé, mais ça semble complètement évident maintenant que tu le dis. En tout cas, l'autre point intéressant, c'est le plot A, en fait, c'est Mariner donc, qui suit ce fameux personnage Cassianox et qui a l'air finalement dépassé par les événements parce que pour une fois, Mariner se trompe complètement et c'est donc cet autre personnage-là qui finalement a complètement raison parce que Mariner est tellement obnubilée par la base 80 parce qu'il y a vécu qu'elle imagine que la base est maudite, qu'il y a une malédiction et donc elle réfléchit pas correctement quand elle voit donc des choses mal arriver, c'est-à-dire tous les gens du Cerrito se transforment un peu en zombies qui essayent de lécher des trucs suite au combat parce qu'en fait, il y a une espèce d'entité non corporelle qui a pris la possession des lamantins qui sont sur le Cerritos et ça se répand en fait à tous les membres de l'équipage qui deviennent un peu comme les papilles gustatives ou les doigts de cette créature là qui a perdu le contrôle en fait, qui a pris tout le monde un peu possession de tout le monde mais qui ne sait plus quoi en faire et du coup ça s'étend. Et j'ai bien aimé moi cette partie là parce que c'était bien animé, je trouvais que les mimiques des personnages, la gestuelle des personnages étaient mieux animés qu'à l'accoutumée, qu'ils étaient bien inspirés. Et même dans les quelques scènes de bagarre avec Mariner, je trouvais que ses mouvements étaient très fluides, très amples, et que voilà, ça se sentait que les animateurs et animatrices étaient vachement amusés sur cet épisode-là. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette petite... Même si c'est pareil, on se doute un peu de ce que c'est, et puis même on s'en fiche un peu quelque part. Mais en tout cas, le déroulé de cette histoire un peu de zombie était plutôt sympa.
Ouais, bah c'est comme le disait Romain, ça joue beaucoup sur le comique et du coup, bah sortir des personnages qui deviennent des zombies au milieu d'une série de Star Trek, c'est un peu marrant. Mais alors j'avoue, je me suis fait un peu avoir parce que je m'attendais à ce que on ait un retour de Badgie, vu que le problème venait des badges au début. Je me suis dit tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un retour de Badgie qui vient niquer tout le monde et dévoiler un potentiel super vilain de fin de série, ce qui aurait pas été déconnant avec Badgie, je trouve. Ou une coalition de toutes les IA qu'ils ont rencontrées à travers la série, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Mais ouais, je l'ai trouvé sympa. Alors oui, c'est bien animé, mais je trouve que toute la saison est bien animée. Je la trouve vraiment très belle, cette série. Et on a revu les dauphins de l'espace, et ça fait plaisir.
C'est vrai qu'on les voit souvent, finalement. Et toi, Romain ?
Moi, je les aime bien aussi, les dauphins. C'était marrant de voir qu'ils étaient un peu au cœur de l'histoire. En plus, ils sont mignons comme tout. Après, j'ai l'impression que le coup de tout l'équipage qui devient fou, j'ai l'impression qu'ils nous l'ont fait plein de fois. Mais ouais. Je sais pas si c'est une vue de l'esprit ouais. Ou pas. Mais j'ai l'impression non, de l'avoir vu des dizaines de régulièrement, fois.
Ouais. C'est la deuxième fois, en fait. La première fois, c'est arrivé dans le tout premier épisode. Donc, c'est pour ça que c'est marquant.
Mais il n'y a pas eu d'autres épisodes.
Ah ouais, on n'a pas eu depuis.
Où il y a une entité comme ça. Alors
l'épisode
soit,
où ils se mettent tous à baiser, là, tu sais, qui avait tellement choqué.
Ça, c'était dans une sorte de programme holodeck. En fait, tu sais, quand t'avais une instructrice qui faisait faire des missions et il leur donnait plusieurs missions pour les évaluer. Et l'une d'elles, c'était ça, l'équipage en folie, quoi.
Mmh. Ouais, mais t'as aussi le moment où ils se fusionnent tous dans la saison précédente.
Avec en espèce de gros
ils
Tuvix.
Ils font tous
là.
Des Tuvix, là. Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a plusieurs épisodes où t'as vraiment tout l'équipage qui se retrouve dans une situation de grande détresse, quoi, enfin, et qu'il y a que quelques personnages qui arrivent à comprendre pourquoi, comment, et etc.
C'est un classique dans la franchise, hein. C'est aussi arrivé souvent aux autres équipages, quoi. Mais c'est vrai que là, le ratio est peut-être important vu le peu de
nombre d'épisodes, assez réduit,
ouais, tout à fait. Bon, bah voilà, je pense qu'on peut passer au prochain épisode, donc au prochain podcast. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous diriez pour conclure ?
J'ai beaucoup aimé à quel point c'est très réel, à quel point il s'adapte à des situations absurdes dans la Starbase. Et notamment la scène où il rentre dans le labo, et le labo a la gravité inversée. Et ayant travaillé dans l'informatique en devant faire des analyses du besoin des clients, de comment ils travaillent et tout, tu te rends compte régulièrement que dans la vraie vie, ça arrive souvent que les gens s'adaptent en faisant des choses absurdes, mais qui deviennent leur quotidien, parce qu'on ne répond pas à leurs besoins. Parce qu'il n'y a personne qui vient répondre à leurs problèmes, à des bugs, à des trucs comme ça.
Ouais.
Et les gens s'adaptent, en fait. Les gens s'adaptent et contournent et font des trucs qui, après, quand tu arrives de l'extérieur, justement, ce que fait le Cerritos, ça a l'air de n'importe quoi, quoi. Mais dans leur vie de tous les jours, c'est normal.
Ok. Et toi, Romain ?
Il m'a vraiment fait marrer, cet épisode. Je dois dire qu'il m'a vraiment, vraiment fait marrer. J'ai trouvé que c'est vraiment le bon dosage entre absurdité, fanservice, etc. J'ai trouvé que les nouveaux personnages étaient tous attachants, que ce soit l'ingénieur ou le personnage de la race de Guinan, là. De l'espèce de Guinan, j'aurais dit. Donc, voilà, il m'a plu, cet épisode. J'ai passé un bon moment. Je suis un peu embêté cette saison parce que l'année dernière, j'étais super cynique sur tout. Et cette année, c'est un peu la même chose, mais sauf que j'aime, en fait. C'est-à-dire que je vois pas... Il n'y a rien qui est transcendant, mais je passe toujours un bon moment et je suis vraiment content de voir chaque nouvel épisode. Là où l'année dernière, j'étais un peu... c'était presque une corvée, tu vois, de voir me reconnecter pour faire les podcasts et tout, de revoir l'épisode, de revoir les épisodes. Donc, je sais pas, je m'explique pas complètement moi-même... Pourquoi j'aime mieux que la saison d'avant, en fait. Je trouve que les personnages ont enfin grandi.
Ah oui, c'est sûr.
Et je les trouve beaucoup... Là où je finissais par les trouver vraiment insupportables la saison dernière, là, je les trouve beaucoup plus attachants. Et les quatre, mais à commencer par Baumler et Mariner, en fait. Et Mariner, je ne la supportais plus la saison dernière. Et là, là, vraiment, je trouve qu'elle est devenue vraiment très cool comme personnage, en fait.
J'aurais été d'accord avec toi, en fait, jusqu'à cet épisode. Et l'épisode d'après, je ne serais plus d'accord. Parce que Boiler m'énerve particulièrement dans l'épisode d'après. Mais Mariner, je la trouve au top. Vraiment, c'est mon personnage de la saison, je pense. Parce qu'il traite pas Tilly. on en reparle dans l'épisode d'après.
C'est vrai. Bon, on va se quitter avec un petit promo Rocco, vite fait. Qu'est-ce que tu aurais à promouvoir ou recommander, Manu?
Ouais, j'en sais rien, j'ai rien. En plus, tu vas me demander ça deux fois.
Oui.
Suivez le coin pop.
Ah oui, c'est vrai. Le coin lecture, le coin pop, tout ça.
Et j'ai aussi une reco, c'est que j'ai maté... je suis dans beaucoup de rewatch en ce moment, mais j'ai maté un film que j'avais pas encore regardé, que j'avais mis de côté depuis un an. Il s'appelle Reality, qui adapte en fait... c'est un film avec Sydney Sweeney, si vous voyez qui c'est.
Oui,
tout à fait.
Une actrice de Euphoria, notamment. Je l'ai découvert via Euphoria.
Oui, on voit bien qui c'est.
Et justement, c'est le film à voir contrer les gens qui disent qu'elle est castée que sur son physique, parce que vraiment, le film raconte, enfin parle de elle qui joue Reality. Ça adapte une affaire réelle où en 2017, il y a eu un leak d'une information confidentielle. Et en fait, ça commence avec elle qui rentre chez elle et il y a des agents du FBI qui viennent et qui frappent à la porte de sa voiture. Et c'est une adaptation littérale de l'enregistrement de son interrogatoire. Et en fait, ça dure 1h20, je crois. Je crois que l'interrogatoire, il doit durer 2h, 2h30 en tout. Et on suit que ça. C'est quasiment une seule scène, sauf qu'il y a des petites coupes, mais c'est quasiment une seule scène. C'est vraiment, ils arrivent chez elle et à la fin, ils repartent de chez elle. Et c'est ça, le film. Et c'est à la fois... très oppressant, très bien joué. Il y a une sorte de côté surréaliste dans les discussions que les agents du FBI ont parfois avec elle ou entre eux, et qui sont vraiment les adaptations de la transcription. Des fois, on a les documents officiels avec les transcriptions de l'interrogatoire du FBI. Et en plus, là où c'est intéressant, c'est que c'est une affaire du tout début de mandat de Trump. Et du coup, là, à voir au moment où il va reprendre son second mandat, c'est un petit peu glaçant, en fait, dans ce qui se passe.
Et toi, Romain ?
Je vous saoule depuis des mois avec Gundam, et comme je me refais... Se refaire l'intégrale de Gundam, c'est un peu comme se refaire l'intégrale de Star Trek, c'est-à-dire que tu pars dans un tunnel, tu sais pas quand tu vas en sortir, et moi j'ai un peu de mal à en sortir. Ceci dit, j'ai eu le temps de voir une série que j'avais pas vue. Alors on sort complètement de l'univers trekkien, on est sur un truc bien terre-à-terre, c'est une série qui s'appelle Slow Horses sur Apple TV.
Ah ouais, je l'ai fini hier, la saison.
Avec Gary Oldman en personnage principal, Christine Scott Thomas dans la première saison également, je sais pas si elle revient après, j'ai vu que la première saison.
Ah si, elle est super.
Et j'ai vraiment trouvé la série mortelle. Le pitch, vraiment en deux mots, c'est des gens qui se retrouvent dans un bureau du MI5, qui est un endroit où on met tous les tocards, en fait. Tous les gens qui ont fait une erreur qui est tellement grave qu'on pense qu'ils sont plus aptes à servir vraiment dans les gros bureaux du MI5. Du coup, ils se retrouvent vraiment dans le bureau pourri. Vraiment la Starbase 80 du MI5, si tu veux, où les gens vraiment sont là, tu vois, pour vérifier au niveau RH que les mecs n'ont pas commis de crime par le passé. En fait, tu vois, vraiment les sous-tâches du MI5. Et ils se retrouvent
Techniquement même, je crois qu'ils n'ont pas vraiment de mission. Enfin, ils sont censés rien faire même.
C'est ça. Et avec un manager qui est donc Gary Oldman, qui les encourage grandement à rien faire. Limite, si tu cherches du boulot, il te le reproche en fait. Et ils se retrouvent un peu malgré eux au cœur d'une affaire qui pour le coup est absolument centrale pour eux, mais également pour toute la Grande-Bretagne. Et ils se retrouvent un peu confrontés comme ça. Il y a un peu un côté... comment s'appelle ce comics DC avec les tocards qui se retrouvent un peu...
Suicide Squad.
Voilà, carrément. Et il y a vraiment un côté comme ça, et ça fonctionne très très bien, c'est ultra bien joué, c'est une bonne série britannique comme on les aime. Décidément, Apple TV, j'ai pas particulièrement envie d'aimer Apple, mais faut admettre qu'ils enchaînent quand même les bonnes séries. Et celle-là, si vous avez le temps de la voir, c'est assez court. Je crois qu'ils en sont à la troisième saison, chaque saison doit faire 6 ou 8 épisodes. 4 saisons, et voilà.
J'ai plus de précision que toi sur ta recours, Romain.
Vas-y, continue, parce que j'ai vu que la première saison, si tu veux.
En fait, déjà, c'est une adaptation d'une série de romans. Dans laquelle il y a je crois, 8 romans et 5 novellas, donc il y en a pour un moment. Ils ont déjà renouvelé jusqu'à la saison 6 et on en a à peu près, je crois qu'en moyenne, c'est tous les 8 mois qu'il y a une saison, parce que ces 6 épisodes, ils les enchaînent assez vite. Mais oui, ce qu'a dit Romain, c'est très vrai. Il y a, quand tu continueras les saisons, tu verras qu'en plus, bah, il y a un peu le côté, je ne sais pas si vous avez maté Spook, c'est à l'époque MI5 en français. Le côté où des fois il y en a qui meurent ou qui disparaissent parce qu'il y a des choses qui se passent, quoi. C'est, ça arrive, donc c'est pas une série où tes personnages ils sont clairement protégés. Et la saison 4, ça se passe en partie en France, c'est vraiment tourné en France, il y a vraiment des acteurs français, ce qui est agréable à voir quand on est habitué à des productions comme le MCU, des choses comme ça. Et il y a même Hugo Weaving dans la saison 4.
Qu'on n'a pas vu depuis longtemps pour le coup.
Ouais, et il y a aussi, mince, comment il s'appelle ? Gaïs Baltar. J'ai perdu son nom à l'acteur. Mais il y a Gaïs Baltar dans la saison 4 aussi. Gros connard, hein, il a un...
Ah bah forcément
connard, bah il joue un connard. Mais ouais, bah moi ça a été une reco dans plusieurs podcasts, figure-toi, c'est le hors-season. Et j'ai fini la saison 4 hier et c'est toujours très quali. Et la saison 5, je sais pas, on l'aura peut-être dans 6 mois probablement.
Ok, bah moi je vais commencer ça.
J'avais pas trop prévu de faire cette reco, mais en vrai il y a une vraie connexion avec Lower Decks en fait, si tu y penses. C'est parce que c'est vraiment les Lower Decks du MI5 en quelque sorte. Avec le capitaine qui est à la fois, leur chef qui est à la fois un connard, vraiment un connard, mais en même temps un mec qui a beaucoup de talent, et vraiment ça fonctionne super bien cette série. J'étais trop content de regarder cette série.
Ok, bah moi c'est noté, vous m'avez trop donné envie de le voir et ça va être une de mes prochaines séries à regarder. Et moi de mon côté, sinon bah c'est une petite promotion, je serai en dédicace au moment où vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez à sa sortie, le jour de sa sortie bien sûr, à Faber-Villers, un salon du livre avec l'association Phylactère comme d'habitude pour dédicacer mes BD. Donc bah voilà, bon, en tout cas merci à tous les deux et on se dit bah à tout de suite pour le prochain podcast parce qu'on l'a enregistré immédiatement et vous pourrez l'écouter demain. À tout de suite, longue vie et prospérité.
Ciao tout le monde.
De toute façon, ils l'écouteront dans 3 ans après celui-là.
Peut-être, on n'espère pas, mais c'est possible, oui.
Bonus.
Trax.
Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Land Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Land Rider, L-A-N-D plus loin, R-I-D-E-R, sur vos plateformes d'écoute préférées.
Bonus.